vous entendez une différence déjà. Et vous sauriez mettre un mot dessus. Ouais, il y a des basses. Ouais. Il y a plus de percussions. Ouais, de percussions. Il y a en effet des sonorités un peu différentes. En fait, c'était donc un petit détour par la musique plus actuelle pour dire que en fait, dans la musique classique, c'est exactement la même chose. Nous, aujourd'hui, dans la musique actuelle, on s'est reconnus. Des genres différents. Et en fait, dans la musique classique, bah, y a plein de variétés, il y a plein de genres. Et d'ailleurs, on dit de la musique classique parce que c'est le terme utilisé, autorisé pour parler de ce genre de musique et pour la distinguer de la musique de variété. Mais il y a plein de sortes de musique classique, en fait. Et donc, nous, on va s'intéresser à la musique baroque, donc, c'est-à-dire la musique européenne, entre 1600 et 1750. Et on va essayer de montrer ce qu'elle a d'un petit peu différent par rapport à la période d'avant et puis par rapport à la période d'après. Alors d'abord, le mot baroque, ça viendrait du portugais barroco, qui désignait au XVe siècle une perle d'une forme irrégulière. Et puis ensuite, par extension, c'est devenu bizarre, étrange, choquant, inégal. Et au XVIIIe siècle, le mot est employé en littérature ou dans les beaux-arts pour désigner l'inattendu, le spectaculaire ou encore l'irrationnel. Et il y a des thèmes qu'on va retrouver dans le mouvement baroque, le rêve, les courbes, les ornements. Alors je voudrais faire une toute petite parenthèse pour dire que le baroque, c'est pas juste le fait de la musique, c'est un mouvement artistique européen de tous les arts, peinture, architecture, littérature. Et c'est un mouvement qui prend forme dans une société qui est en train de se transformer. Hein. Le commerce va se développer de manière spectaculaire. On va trouver de nouvelles routes commerçantes, de nouvelles épices, de nouveaux matériaux qui viennent des quatre coins du monde. L'aristocratie, elle étale sa richesse. Et ce n'est pas une richesse que matérielle, c'est aussi une richesse intellectuelle et artistique. Dans les salons des ducs, nobles et autres, se rassemblent aussi bien des poètes que des peintres ou même des mathématiciens. Et donc le baroque va naître dans une période, dans une société où les échanges marchands et culturels sont en train de se multiplier. Deux tout très courts exemples pour montrer que le baroque c'est pas que de la musique, un exemple d'architecture et un autre de sculpture. Alors évidemment, donc ça c'est l'église de Sainte-Agnès à Rome. Bon, ça nous paraît tout ce qu'il y a de plus classique pour nous aujourd'hui, mais ça a beaucoup choqué à l'époque. Si vous regardez bien, il y a le premier étage des tours qui sont carrés et le sommet, le dernier, qui est rond. Il y a plein de fenêtres avec des formes différentes, etc. Et pour un classique orthodoxe, ça paraissait vraiment très bizarre. Autre exemple, célèbre sculpture du Bernin, l'extase de Sainte Thérèse, qui va avoir le cœur transpercé par un ange, et donc vous voyez les rayons de lumière matérialisés par les rayons d'or. Et puis on a l'impression que la sculpture flotte un petit peu comme ça dans les drapés de la sainte. Donc c'est des œuvres hein, qui présentent les principales caractéristiques de l'art baroque, le théâtral, le spectaculaire, etc. Et donc c'est des thématiques qu'on va retrouver un petit peu partout en Europe. Alors maintenant on va parler bien sûr de la musique. Alors, on va réessayer le petit jeu de tout à l'heure, mais en peut-être un petit peu plus compliqué. Alors, on va vous jouer donc deux morceaux. Vous allez essayer de nous dire les différences. C'est des trucs très simples. Hein.
Se battre en mes deux clous.
un vol pour refaire en entier. Alors, quelle différence? Un truc tout bête.
Et la voix, là,
ouais. Bah ouais, il y a quand même des instruments dans le deuxième et que des voix dans le premier. Et en fait, la première différence, une différence importante, c'est le timbre des instruments. Alors, au Moyen-Âge, il y a plein de sortes de musique. Dans la musique religieuse, c'est essentiellement vocal pendant une grande partie du Moyen-Âge. Les instruments sont bannis des églises. Et on chante une mélodie liturgique à l'unisson, c'est-à-dire que toutes les voix chantent la même chose. Et puis peu à peu, les choses... Enfin, quand je dis peu à peu, hein, c'est sur quelques siècles quand même. Et enfin, progressivement, les choses vont un petit peu changer. Et puis on va se mettre à chanter avec des voix séparées. C'est ce qu'on appelle la polyphonie. Et puis dans la période d'après, à la Renaissance, donc au XVe siècle, les choses vont se complexifier encore. Et puis en dehors de la musique religieuse, il y a plein de sortes de musiques à la cour, dans les villages, etc. Et puis tout est joué avec plein d'instruments différents. En fait, il y a beaucoup d'instruments qui existaient à cette époque-là, des instruments à vent, à embouchure, avec des anches, avec des cordes pincées, des cordes frottées. Et au XVIIe siècle, donc pendant la période baroque, ce qu'on appelle la facture des instruments, c'est-à-dire leur fabrication, ça va se développer, ça va plus être laissé à des artisans, mais ça va devenir une véritable activité sur une plus grande échelle, avec des ateliers spécialisés. Et certains instruments vont être repris et améliorés, il y en a d'autres qui vont apparaître et puis disparaître. Alors on peut citer ceux dont on dispose aujourd'hui, alors le mien, la flûte à bec, qui a connu un grand succès en fait avant de traumatiser des générations d'écoliers, plus certainement. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, le son plus précisément. C'est une fantaisie de Telemann, et d'ailleurs fantaisie, hein, c'est un mot justement très baroque, c'est un petit bout de la fantaisie. La flûte à bec qui va justement complètement disparaître après la musique baroque. Alors l'autre instrument, c'est le clavecin. Alors c'est un instrument très fragile et puis difficilement transportable, ce qui explique qu'on n'en a pas aujourd'hui, mais le son ressemblait à peu près à ça. Donc c'est un extrait de, c'est un air de la sixième partita de Bach. Thank you. vous voyez, donc ça ressemblait un petit peu à ça. C'était parfois des vraies œuvres d'art, hein, richement décorées. Mais au début du XVIIIe siècle, il y a un Italien, Bartolomeo Cristofi, qui va inventer le pianoforte, qui est l'ancêtre du piano actuel et qui va complètement évincer le clavecin. Alors on pouvait entendre aussi des viols. Je vous ai mis quelques exemples. Des viols, c'est des instruments à cordes frottées, c'est-à-dire qu'on joue avec un archet. Et donc il y en avait de plusieurs sortes. Ça, ce que vous voyez, c'est une viole de gambe qu'on tient entre ses jambes, comme son nom l'indique, où il y avait aussi des viols d'abraccia, qu'on prenait donc dans ses bras. Et alors ça a eu un immense succès, hein, à la période baroque, les viols. Mais elles ont été supplantées par les violons et les violoncelles au XVIIIe siècle. Alors, autre particularité des instruments de la période baroque, c'est la manière dont ils sont accordés. Vous avez peut-être déjà entendu des orchestres qui s'accordent et pour qu'ils aient tous le même son, on dit donner le la, hein, donc pour que tout le monde ait le même son de base, disons. Sauf que à la période baroque, ça n'existait pas tellement. Et il y avait chacun s'accorder sur une note différente suivant les villes. Et puis en plus, ça varie avec les instruments. Quand il fait chaud, quand il fait froid, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, nous, on a un petit peu triché là pour que ça sonne bien. Parce que en fait, ma flûte, elle n'est pas du tout accordée en vrai avec le piano. Enfin, avec le clavecin, pardon. Regardez ce que ça donne. On est en train de jouer la même note. Hein. Il y a une grande différence. Hein. Donc nous, on est obligé de tricher un petit peu. Alors, ceci dit, pour en revenir aux instruments, là, donc ça fait que ces instruments-là, le clavecin, la flûte avec les viols, ça va donner une couleur, une particulière, des sonorités qu'on n'a plus tellement l'habitude d'entendre. Et donc, en fait, si vous entendez ces instruments-là, il y a de fortes chances pour que vous soyez en train d'écouter de la musique baroque. Alors on va vous jouer le premier mouvement d'un concerto de Vivaldi qui s'appelle la Tempesta di Mare, c'est-à-dire la tempête de la mer. Et si on joue bien, normalement vous entendez le son des vagues. Thank you. je ne sais pas si vous avez entendu une autre différence avec le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Une des différences principales, c'est que au Moyen-Âge, enfin, dans la musique du Moyen-Âge et de la Renaissance, il y a beaucoup d'œuvres qui étaient composées de différentes mélodies qui se mélangeaient ensemble. On peut refaire, Guillaume, juste chacun notre voix dans le mignon à la voix. Mélodie que j'ai chantée, et lui par-dessous, voilà ce qu'il a fait. Voilà, et donc, vous entendez, c'est quand même assez mélodieux l'un et l'autre, mais ensemble, ça rend quelque chose, c'est joli. C'est joli, et pourtant c'est vraiment deux mélodies un petit peu différentes, mais qui sont bien ensemble. C'est donc ce qu'on appelle la polyphonie. Il y a plusieurs voix. Et pendant plusieurs siècles, cette polyphonie, ça a lentement évolué. Alors d'abord, là en plus on a triché, on vous l'a chanté qu'à deux, en fait c'est à quatre voix. Et puis on a rajouté des voix supplémentaires, ça a pris beaucoup d'importance. Et puis au XVIIe siècle, les choses vont un petit peu se transformer. Et donc on va plus avoir deux ou trois ou quatre ou sept voix qui vont faire la même mélodie, mais une voix ou un instrument qui va faire la mélodie, et par-dessous, un accompagnement, ils vont faire des accords. C'est-à-dire, tu peux nous faire un petit exemple d'accord, des notes qui sont jouées donc ensemble. Alors on va vous jouer le début d'une sonate de Télémane pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous allez entendre, c'est très différent, donc il y a vraiment, moi je fais la mélodie et puis Guillaume fait des accompagnements derrière. Vous avez entendu hein, qu'il ne fait plus du tout une autre mélodie par-dessous, mais des accords pour accompagner. Alors, il faut quand même... C'est pas quelque chose qui va... c'est pas une invention comme ça qui est apparue à un moment qu'on pourrait dater, c'est le fruit vraiment d'une longue évolution. Et c'est ça ce qu'on appelle l'harmonie, le fait de mettre des accords qui sonnent bien ensemble. Et puis en plus, la polyphonie, le contrepoint, de faire deux mélodies qui se croisent, ça n'a pas du tout disparu hein, pendant la musique baroque. Il y a l'harmonie qui apparaît, mais on continue à utiliser le contrepoint et la polyphonie. Ceci dit, l'harmonie, ça va être une grande invention, ça va être la base de toute la musique occidentale jusqu'au début du XXe siècle. Mais alors, il y a une autre petite originalité, un peu spécifique par contre à la période baroque, c'est ce qu'on appelle le continuo. Alors, je vais vous montrer une partition. Alors, le continuo, donc c'est pour jouer la partie d'accompagnement de la mélodie. Les compositeurs, ils écrivent une ligne de musique, c'est celle que vous avez en bas là. Et vous remarquez que les notes, il y en a qu'une d'abord, mais qu'elles sont surmontées d'un chiffre. Et donc le chiffre va indiquer à l'accompagnateur, le claveciniste ou le luthiste ou l'organiste, les autres notes, l'accord qu'il doit jouer avec. C'est un petit peu le même principe que ce qu'on voit aujourd'hui pour la guitare par exemple. Les guitaristes, ils ont des grilles comme ça d'accords et ils savent ce qu'ils doivent jouer sur la partition. Alors voilà ce que je vous propose. On va jouer le thème de la Folia qu'on vous a joué au début. Et donc qui est basé et pas encore les variations. Continue. Alors, ah oui, peut-être que vous avez déjà remarqué. Ah oui, non, on aurait dû jouer des variations en fait. Non, c'est pas grave. Si, allez, on vous continue. Remarqué ce que c'est en fait, c'est donc des variations autour d'un même thème. Et alors la musique baroque, ça laisse beaucoup de liberté aux musiciens. On joue d'abord avec ce qu'on a sous la main comme instrument. Les compositeurs n'écrivent pas spécifiquement pour la flûte ou pour le violon, ils écrivent pour une ligne mélodique. Et puis si on a une flûte, et ben on joue avec la flûte, si on a un violon, on joue avec un violon. On va improviser aussi beaucoup des accompagnements à main levée ou une deuxième mélodie pour se greffer à la première. Bach par exemple, alors Jean-Sébastien Bach s'est considéré comme le dernier compositeur de la période baroque. C'était un maître de l'improvisation qu'il écrivait et développait dans des proportions considérables après. Il a laissé tout un tas de recueils, les variations Goldberg, l'art de la fugue ou le clavier bien tempéré. Ça présente des dizaines et des dizaines de variations autour d'un thème qui est repris à l'infini, à l'endroit, à l'envers, développé dans toutes les tonalités, etc. Autre aspect de cette liberté qui est accordée aux musiciens, c'est l'ornementation. Alors, les thèmes eux-mêmes, vous avez vu là le thème de la folia et le thème de base, il est quand même relativement simple. Et donc, pour l'agrémenter, disons, on permet tout à fait aux musiciens de rajouter des notes, des tris, des petites ornementations comme ça. Je vous fais juste le début un peu pour vous montrer ce que ça donne. C'est pas du tout écrit, hein, c'est à la libre, au libre choix du musicien. Et puis alors des fois ça prend des proportions tout à fait très importantes avec chaque note ornementée, etc. Et puis plus on va avancer dans le temps, plus les compositeurs ils vont écrire eux-mêmes ce qu'ils veulent entendre et donc chaque ornementation. Guillaume va vous interpréter une sarabande, la sarabande de la sixième partita de Bach. Donc là, tout est vraiment écrit. En fait, j'ai regretté après de ne pas avoir mis une photo de la partition parce que pour vous montrer à quel point tout est écrit, toutes les petites notes des ornements, tout est absolument voilà, écrit jusqu'à la moindre note. Et alors, d'ailleurs, cette fantaisie, elle permet aussi de laisser la place à la virtuosité des musiciens. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse pour expliquer un petit peu justement qui étaient ces musiciens de la période baroque. D'abord, c'était souvent eux-mêmes des fils de musiciens qui apprenaient la musique très très tôt, souvent l'orgue, et puis qui ensuite servaient à la cour des princes, des rois ou dans les églises. pour lesquels il devait d'ailleurs composer sans cesse de nouvelles œuvres. Et puis les spectateurs aussi de cette musique baroque, c'est des gens qui étaient férus eux-mêmes d'art et de musique. Les petits nobles apprenaient quasiment obligatoirement à jouer un instrument. Et les compositeurs et les musiciens, ils étaient au service, c'est ça qu'il faut se rendre un peu compte. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer parce que ça a beaucoup changé, mais pendant des siècles, les musiciens c'était des serviteurs. Ils étaient vraiment comme des valets de chambre des rois ou des princes, et donc ils devaient suivre la cour du seigneur auquel ils étaient attachés, ce qui les a fait voyager dans toute l'Europe. Et donc quand ils rentraient chez eux, ils ramenaient des influences italiennes, françaises ou allemandes, qu'ils adaptaient ensuite un petit peu à leur sauce, mais ça aussi ce qui a fait que le baroque, ça a été un mouvement international. Et alors, autre aspect aussi, c'est que du coup, ils ont écrit une quantité d'œuvres invraisemblables. Alors, il fallait faire les exercices pour les petits princes, les variations autour d'un thème que voulait entendre le souverain, la cantate pour la messe de la semaine d'après, etc. Et donc, les compositeurs de cette période, ils ont écrit chacun des milliers de pièces. C'est un truc, c'est vraiment impressionnant. Alors pour en revenir à l'ornementation, parce que c'était quand même mon sujet de départ, donc plus on va avancer dans le temps, moins les compositeurs vont laisser la place à l'imagination et à la liberté du musicien. Ils vont être vraiment exigeants, ils vont commencer à écrire spécifiquement pour certains instruments, et donc ils vont écrire jusqu'à la moindre note. On va vous illustrer ça aussi avec le deuxième mouvement du concerto de Vivaldi qu'on vous a joué tout à l'heure, La tempête de la mer, mais là la mer s'est un petit peu calmée depuis tout à l'heure. Le baroque, je l'ai dit au début, c'est le règne de l'inattendu, voire du bizarre ou de l'étrange. Et donc la musique baroque raffole des contrastes de couleurs, de rythmes. Alors d'abord, vous avez peut-être entendu, dans le concerto de Vivaldi, il y a des mouvements rapides, d'autres qui sont lents. Et parfois, ça peut même changer à l'intérieur d'un même mouvement. Il peut y avoir une grande diversité de rythmes. Alors Guillaume va nous faire une courante qui est extraite toujours de la même sixième partita de Bach. Vous allez écouter, il y a des rythmes qui sont sans cesse changeants.
Thank you.
entendu un petit peu les différents. Et alors, on peut faire la même chose aussi, des choses un petit peu étranges, avec des altérations, en changeant un petit peu la couleur des notes, pour faire des accords qui ne sonnent pas forcément très bien ensemble, pour faire des dissonances. Alors ça, c'est pareil, c'est une évolution dans la musique baroque, parce qu'au Moyen-Âge, il y avait certains accords qu'on trouvait dissonants, qui étaient interdits, on disait que c'était les accords du diable. Et ben, au contraire, dans la musique baroque, on va commencer à les rechercher, parce que l'Église, elle a quand même perdu un petit peu de son poids et de son influence. Ça reste quand même très important, bien sûr, mais le carcan autoritaire s'est un petit peu desserré. Et du coup, voilà ce que ça pouvait donner. C'est un passage du deuxième mouvement du concerto italien de Bach. Ces contrastes, ces rythmes, ces couleurs, c'est aussi une des caractéristiques de la musique baroque. Alors, d'abord, on n'a pas beaucoup de temps et puis il y a des milliards de trucs à dire sur le sujet, hein. Mais juste pour terminer, la musique baroque, elle a été méconnue pendant très longtemps. On l'a redécouverte au 19e siècle, mais en fait, elle a développé de manière vraiment spectaculaire la musique et elle a exploré beaucoup de ressources musicales. Les instruments, les techniques, tout ça, ça se perfectionne. Et puis, il va y avoir des nouvelles formes musicales qui apparaissent pendant la musique baroque. Par exemple, les concertos, là, le concerto de Vivaldi qu'on vous a joué, où il y a un ou plusieurs solistes qui concertent, qui dialoguent avec un orchestre entier. Ou encore la symphonie qui va utiliser les ressources plus complètes des orchestres qui vont commencer à se fournir un petit peu. Et puis donc ces nouvelles formes, elles vont avoir un succès phénoménal dans la période d'après avec des compositeurs que là on connaît mieux, avec Mozart, Haydn ou Beethoven. Et puis alors, la musique baroque, on n'a pas du tout le temps d'en parler, mais il y a eu quand même une grande invention qui a connu un succès fulgurant, qui est née au tout début de la période baroque, c'est l'opéra. Le premier opéra, ce qui est considéré comme le premier opéra, l'Orfeo qui raconte le mythe d'Orphée dans la mythologie grecque, c'est Monteverdi, compositeur italien à la cour du duc de Mantoue, qui a fait représenter donc, ce premier opéra. Et alors là, avec l'opéra, le goût pour le spectaculaire, l'inattendu, le théâtral, là, ils étaient comblés. Évidemment, tout ce que j'ai dit, c'est des grandes généralités qu'il faut bien sûr nuancer, il y a des différences. En particulier entre les pays. La France, par exemple, sous le règne de Louis XIV, a adopté un style et des formes particulières et caractéristiques. Il y avait l'influence de la cour, des ballets, et ça a créé une musique un peu originale qui est caractérisée par un rythme un petit peu saccadé qu'on reconnaît un petit peu facilement. Je vous joue juste un petit extrait pour vous montrer à quoi ça ressemblait. style de la musique française. En Italie, c'est plutôt le règne de la mélodie un petit peu virtuose. En Allemagne, il y a l'influence de la réforme, de la religion qui prend un petit peu plus de place. Bon, voilà, pour ça, pour dire que c'est voilà, faut nuancer un petit peu. Il y a des différences. Il s'influençait en plus. Là, j'ai un peu triché parce que ce que je viens de vous jouer, en fait, c'est un compositeur allemand qui l'a écrit. Et au-dessus de la partition, il y a marqué à la française. Donc vraiment, il y a ce genre d'influence. Et puis évidemment, comme le droit d'auteur n'existait pas du tout, ça se copiait allègrement. Donc pour récapituler, la musique baroque, donc c'est le genre musical dominant en Europe occidentale entre 1600 et 1750. C'est caractérisé par la mise en place de l'harmonie, donc plus les voix qui s'enchevêtrent, mais l'apparition de l'accompagnement avec des accords. Et puis surtout par des timbres particuliers de certains instruments et par une grande liberté d'interprétation qui joue sur les contrastes et les oppositions. Et pour finir, on va vous jouer en entier, j'espère qu'on a le temps, j'ai pas l'heure, mais on a juste le temps, de vous faire un autre concerto de Vivaldi qui s'intitule La Nottée, c'est-à-dire la nuit.
Thank you.
juste 5 minutes si vous avez le temps pour. Alors, ça s'arrête plutôt pour ceux qui ont bien entendu le topo. J'ai un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi. Il s'agit de me dire si c'est de la musique baroque ou pas. Évidemment, il y a un piège. C'est une musique de Purcell, donc c'est une musique baroque qui a été modifiée, un peu jazzy, par une luthiste qui s'appelle Christina Pullard. Ils ont rajouté des pianos, il y a même des solos de saxo par-dessus, mais pour montrer aussi que la musique baroque, ça reste c'est moderne, quoi. Moi je trouve ça super.
Ah! temps, vous écoutez le...
on reste la seconde, c'est la note en deux. Ferrand.
Tout à l'heure.